dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1, à partir du verset 27 jusqu'au chapitre 2, au verset 4. Et c'est à la page 1333 dans les Bibles devant vous. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme, dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.
Bien, je m'associe à l'accueil adressé par Paul et par Genova. Et je suis heureux de vous voir si nombreux ce soir. Alors hier, le conseil de l'Église, vos anciens et vos diacres, se sont réunis pour une retraite du conseil. Et à cette occasion, nous avons essayé de réfléchir aux choses qui nous semblent prioritaires pour l'Église, pour le présent, pour l'avenir de l'Église. Et puis, au-delà des choses absolument prioritaires, on a eu l'occasion aussi de parler de certaines choses peut-être plus secondaires, mais qui ont quand même leur importance et qui méritent réflexion pour la bonne marche de cette communauté. Et je dois vous avouer que c'était des moments agréables. Nous avons été accueillis dans la campagne des Yvelines, chez Pascal et Margaret Bourdois, les parents de Paul. Il y avait du bon café, du bon gâteau, il y avait un crumble légendaire, et malgré tout, une atmosphère propice à des réflexions utiles et bienfaisantes. Alors, dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul, il va essayer d'identifier les priorités pour l'église de Philippe, donc une ville qui se trouvait ça correspond au nord de la Grèce actuelle. Mais lui n'avait pas le loisir de pouvoir y réfléchir tranquillement avec un bon espresso dans un cadre agréable. Il était en prison. Et ceux qui ont entendu les deux premiers messages sur Philippiens, on l'a vu déjà ensemble, il était en prison et en plus il était incertain de son sort. Et en gros, il y avait deux issues possibles, soit la libération, soit l'exécution. Et Paul écrit cette brève lettre aux chrétiens de Philippe. Et il va leur parler, notamment dans le texte de ce soir, de ce qui lui semble absolument prioritaire pour eux. Et on peut supposer que Paul est particulièrement crédible lorsqu'il évoque les priorités, selon lui, pour l'église de Philippe. Parce que vu les circonstances, on imagine, alors qu'il ne sait même pas s'il va survivre encore très longtemps, on imagine qu'il va droit à l'essentiel. Alors quelles sont ces priorités que Paul identifie pour les Philippiens? Bien, à la lumière de ce texte, je pense qu'on peut les résumer en deux exhortations. Persévérez malgré l'opposition et soyez humbles et solidaires. Donc d'abord, persévérez malgré l'opposition. Dans la première partie de la lettre qu'on a vue les deux derniers dimanches, nous avons pu constater la joie et la confiance de l'apôtre Paul malgré l'adversité. Confiance en Dieu, bien sûr, avant tout. Et Paul insiste là-dessus, c'est Dieu qui est avant tout source de confiance, mais confiance aussi dans les Philippiens, parce que Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Et Paul est convaincu que cette église de Philippe qui le réjouit, qui porte du fruit, qui participe avec lui à la proclamation de la bonne nouvelle, de l'évangile, eh bien, il est convaincu que cette église, elle va continuer à prospérer. Mais, bien sûr, il ne s'agit pas pour cette église de s'endormir sur ses lauriers. d'attendre les bras croisés, que toutes les bonnes choses se passent. Pour continuer à prospérer, il faut persévérer. Il faut persévérer dans la foi, dans l'attachement à la bonne nouvelle, malgré les obstacles et les découragements. Et c'est le sens du début de notre extrait, verset 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Soyez digne de ce don qui vous a été fait. » Imaginons un jeune ou une jeune qui a grandi dans une cité, on va dire, et qui a beaucoup de talent et qui obtient une bourse pour aller à Polytechnique. Et on lui paye non seulement ses frais de scolarité, mais aussi le logement, l'alimentation, etc. Bien, j'imagine qu'une fois là-bas, les personnes qui ont repéré ce jeune ou cette jeune attendraient de lui ou elle qu'elle donne le meilleur d'elle-même et mette tout son talent au service de ses études. Il ne s'agirait pas de payer ou de mériter le don qui a été reçu comme un don, mais d'être cohérent, de se montrer digne du privilège obtenu. Et dans un sens, c'est un peu de cette manière que Paul exhorte les Philippiens. Ils ont reçu de Dieu par Jésus-Christ le pardon de leurs péchés grâce au sacrifice de Jésus, une vie nouvelle dans la communion, dans l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est un don qui leur a été accordé. Il n'est pas sous condition. Mais maintenant, il s'agit de se montrer digne de ce don, de vivre en cohérence avec la vie nouvelle reçue. Alors, à quoi ça ressemble, cette dignité, cette cohérence? Eh bien, au moment de décrire très brièvement cette vie digne de l'Évangile, l'apôtre Paul va commencer par résumer les choses ainsi. Tenir ferme. Tenir ferme. Deuxième partie du verset 27. « J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme. » Et c'est déjà un élément qu'on doit relever. Cette vie digne de l'Évangile, l'apôtre Paul ne dit pas qu'elle est remplie d'exploits et de miracles et qu'elle éblouit tout le monde autour d'elle. Non, il dit avant tout que c'est une vie de persévérance, une vie de fidélité. Tenir ferme. Et le premier aspect que Paul souligne à ce propos est que cette persévérance, elle se vit ensemble. Elle se vit collectivement. Et je reviens encore au milieu de ce verset 27, qui est très riche. « J'entendrai dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » Alors on aura l'occasion de revenir sur cet aspect collectif. Mais déjà, nous pouvons retenir le fait que pour tenir ferme dans la foi, eh bien nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour tenir ferme dans la foi. Ça ne semble même pas traverser l'esprit de l'apôtre Paul que cette persévérance puisse être vécue chacun de son côté. Nous avons besoin les uns des autres. Et s'il y en a parmi nous ce soir qui passent par un temps de découragement, de questionnement, de doute peut-être que ça vaut la peine de se poser la question, se pourrait-il qu'une partie du problème soit que vous vous priviez de la communion avec les frères et sœurs? Ou peut-être que la communion que nous vivons, et on doit tous être interpellés par ça, est parfois trop superficielle pour être une vraie source de soutien dans l'épreuve face au découragement. Ce sont des questions ouvertes, et je force délibérément un peu le trait, mais c'est important que nous les posions. Pour persévérer dans la foi, nous avons besoin les uns des autres. À nous de reconnaître ce besoin, mais à nous aussi, bien sûr, de nous rendre disponibles pour faire face à ce besoin aussi chez nos frères et sœurs. L'autre aspect que l'apôtre Paul souligne ici est que cette persévérance, elle se vit face à une opposition. Et là, on est à la fin du verset 27. « Combattant », le verbe est fort quand même, « combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. » Alors, c'est qui ces adversaires? Dans le contexte de l'église de Philippe, Paul, sans doute, pense en premier lieu à des gens qui voulaient physiquement et directement faire du mal aux disciples de Jésus. Et il sait de quoi il parle, parce que lorsqu'il était à Philippe la première fois, livre des Actes chapitre 16, pour fonder cette église, eh bien Paul a été battu, roué de coups, nous dit le texte, avec son collaborateur Silas, et jeté en prison. Donc l'opposition pour Paul, elle n'est pas théorique, hein, elle est bien réelle et féroce. Et dans beaucoup de régions du monde aujourd'hui, c'est encore le cas. Les statistiques d'ailleurs sont unanimes aujourd'hui. Les chrétiens sont, à l'échelle mondiale, la communauté humaine la plus persécutée au monde. Alors c'est vrai que dans nos sociétés occidentales christianisées, qui n'est pas la même chose que chrétienne, mais christianisée, avec l'influence historique du christianisme, les chrétiens ne sont, pour l'instant en tout cas, pas persécutés au sens fort de ce terme, au sens physique de ce terme. Et c'est une grâce de Dieu. Merci Seigneur. Mais il ne faudrait pas croire que l'opposition n'existe pas. Alors pour l'instant, elle est plus idéologique que physique. Mais aujourd'hui, en France, quand l'Évangile est présenté avec intégrité, avec ses affirmations centrales sur un être humain pécheur qui a besoin du pardon de Dieu et de l'exclusivité de Jésus-Christ, comme ça nous a déjà été rappelé ce soir, pour connaître le Créateur et être sauvé de la perdition, bah ça passe quand même pas toujours très bien quand on parle de ces choses-là. Ça va frontalement à l'encontre de la pensée dominante de notre temps qui croit que l'homme est capable par lui-même de donner du sens à sa vie. Et trop souvent, notre foi est considérée comme acceptable, je le crains, parce que nous n'en distillons que de petits fragments qui vont bien passer, on le sait. Aimez-vous les uns les autres, voilà, on s'arrête là. Ça va bien passer. Mais une indication que l'opposition existe, c'est, si vous me permettez l'expression, la trouille que nous avons, que j'ai en tout cas souvent, pour dire en public, à un public de sceptiques, ce que nous croyons vraiment sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur l'Évangile. Donc, l'Évangile est une bonne nouvelle, mais parfois, nous en avons honte. En tout cas, c'est trop souvent mon cas. Or, que nous dit l'apôtre ? Fin du verset 27. « Combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. » Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de balancer n'importe comment les affirmations de l'Évangile. Il suffit de lire d'autres textes de la Bible où l'apôtre Paul demande aux chrétiens de respecter chacun. Dans sa première lettre au chapitre 3, l'apôtre Pierre invite les chrétiens à parler de leur foi avec douceur et respect. Mais il s'agit de ne pas craindre, il s'agit d'avoir confiance en Dieu. Cette bonne nouvelle, elle lui appartient et en nous alignant sur la parole et les promesses qui nous sont adressées en Jésus-Christ, nous faisons le bon choix. Nous faisons le choix qui aboutira à la vie pour toujours. Et c'est ce que rappelle Paul au verset 28. Pour eux, les adversaires, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Autrement dit, s'opposer à l'Évangile, eh bien, ça montre qu'on s'oppose à Dieu et qu'on se prive du pardon et de la vie nouvelle qu'il offre. Ce n'est pas forcément une opposition définitive. L'apôtre Paul lui-même, il a été opposé à l'Évangile farouchement avant de devenir chrétien. Mais persévérer dans la foi, c'est montrer qu'on appartient à Dieu et qu'on suit Jésus-Christ sur le chemin qu'il a emprunté avant nous, celui de la fidélité à Dieu malgré l'opposition du monde. Et donc persévérons dans la foi ensemble, en nous appuyant les uns sur les autres, comme nous l'avons vu. Pas en nous cloîtrant pour nous protéger du monde, mais en montrant au monde qu'une autre vie est possible, vécue selon des valeurs radicalement différentes. Et ça nous conduit à notre second point. Soyez humbles et solidaires. Alors on l'a dit et redit, Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Alors dans ces circonstances, on peut se poser cette question. Qu'est-ce qui pourrait rendre sa joie parfaite ? C'est déjà étonnant qu'il ait de la joie en prison, mais qu'est-ce qui pourrait rendre sa joie parfaite ? Et là, comme vous êtes perspicace, vous me dites, oui, on a compris, ce n'est pas sa sortie de prison qui le motive en premier lieu. On l'a vu les deux dernières fois, Paul voit beaucoup plus loin que cela et ça doit continuer à nous frapper de voir que Paul s'inquiète si peu de son propre sort. Mais alors, si ce n'est pas sa sortie de prison qui pourrait rendre parfaite la joie de Paul, qu'est-ce que c'est ? On va essayer de trouver une bonne raison admirable qui pourrait rendre la joie de Paul parfaite. Alors, est-ce que c'est le fait de retrouver les Philippiens ? Nul doute qu'il s'en réjouirait beaucoup, vu l'affection qu'il exprime pour eux dans cette lettre. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Est-ce que c'est le fait de reprendre son ministère public, de pouvoir proclamer à nouveau librement l'Évangile ? C'est sûrement ça, non ? Eh bien, toujours pas. Et voyons ce que nous dit le verset 2. « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Voilà ce qui comblerait par-dessus tout l'apôtre Paul, alors qu'il ne sait pas, lui, s'il va sortir de prison, s'il va être exécuté. « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. C'est frappant quand même. Il est en prison, c'est pas ce qui va se passer, et ce qui le comblerait, c'est de savoir que les Philippiens sont unis. Mais on comprend en lisant cette lettre, et en lisant aussi d'autres textes de la Bible, que dans la vie chrétienne, l'unité et l'amour des frères et des sœurs en Christ, c'est pas une option, c'est pas un plus. Pour ceux parmi nous qui travaillent soit dans une PME ou peut-être tout simplement au sein d'une petite équipe, vous savez la différence que ça fait si l'équipe est soudée. S'il y a de la confiance, si les gens sont complices, s'entendent bien, ça facilite énormément les choses. On vient au travail avec plus de plaisir. On a plus facilement envie de faire plus que le minimum et de viser l'excellence. Et les entreprises, je ne connais pas très bien le monde de l'entreprise, mais les entreprises manifestement l'ont bien compris, puisqu'on ne compte plus les expériences de team building, de voyages, sorties, repas, etc., qui ont pour but que tout le monde s'entende bien. Pas parce que s'entendre bien, c'est l'objectif, mais parce que ça aide à mieux accomplir les objectifs. Alors, est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ici ? On a une mission à remplir en tant que chrétien, en tant qu'Église, alors autant bien s'entendre. Ça facilite quand même les choses. Mais non, c'est pas ça, parce que l'amour, la solidarité et l'unité font partie de l'essence même de la vie chrétienne. Ça fait partie de l'identité chrétienne en tant que telle. C'est à cela, dit Jésus, qu'on reconnaît ses disciples, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Un amour qui se traduit par une unité profonde, un amour qui, dans la vision biblique, est toujours actif, concret et engagé. Or, pour Paul, comme pour les autres apôtres, l'amour découle nécessairement et inévitablement quand on a compris et saisi la bonne nouvelle qui nous est offerte en Jésus. Et c'est ce que souligne Paul au début du chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Autrement dit, voilà toutes les raisons que vous avez de vivre en plein accord. L'encouragement de savoir qu'on appartient à Jésus-Christ, notre Sauveur, mort à notre place, ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. La consolation de connaître l'amour de Dieu, de se savoir aimé par notre Père, d'un amour éternel, insurmontable. La communion que nous donne le Saint-Esprit, par qui Dieu vit en nous, nous change peu à peu de l'intérieur. Bref, l'apôtre Paul écrit, vous avez des ressources infinies de la part de Dieu. Alors, rendez ma joie complète en vivant cela dans vos relations les uns avec les autres. Il n'y a plus de place pour autre chose entre vous, dit-il aux Philippiens, il n'y a plus de place pour autre chose entre nous que l'amour, l'unité, le désir d'œuvrer ensemble pour celui qui nous a sauvés. Et c'est vrai que quand on se sait aimé par le Dieu de l'univers, quand on se sait pardonné définitivement de nos fautes et réconcilié avec Dieu, quand on se sait comme investi du Dieu qui manifeste sa présence en nous et parmi nous, eh bien, comment est-ce que ça peut ne pas changer tout dans notre vie ? Comment peut-on continuer à vivre selon les préoccupations de ce monde ? Plaire aux autres ? Être remarqué, voire admiré, exercer le pouvoir, avoir de l'influence, accumuler des richesses. Tout cela ne pâlit-il pas désespérément en comparaison avec ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ ? En fait, nous devrions être, pour nous qui sommes chrétiens, les hommes et les femmes les plus confiants et dans un sens les plus optimistes au monde. Parce que nous savons ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Pas parce que nous imaginons que la vie de tous les jours est toujours simple et facile, c'est bien que ce n'est pas le cas, mais parce que nous savons ce que nous avons en Jésus-Christ. Je me rappelle un ami anglais qui me parlait des différences sociales en Angleterre. J'ai eu cette discussion une fois, et cet ami vient d'un milieu relativement modeste, et il me parlait de ses études supérieures, dans lesquelles il avait côtoyé pas mal de personnes, par contre, qui venaient de l'élite sociale du pays. Et il me disait qu'à l'œil nu, la différence n'était pas forcément flagrante, surtout pour un Français, pour un étranger, mais que les personnes venant des classes les plus aisées se distinguaient par une confiance en elles, une aisance sociale qui venait du fait que, au fond de soi, on a intégré qu'on est privilégié. Alors, il parlait de l'Angleterre, mais c'est sans doute assez vrai universellement. Bien, si je peux oser cette comparaison, un peu risquée, je sais, mais avec des richesses infiniment plus valables, nous devrions, en tant que chrétiens, être si conscients de notre privilège que nous pouvons aborder la vie avec cette confiance fondamentale. Pas avec naïveté, mais avec confiance. Confiance dans l'adversité, confiance dans les relations, confiance en l'avenir. Or, c'est cette confiance, et ça peut nous surprendre, qui est, je crois, la source de l'humilité que Paul va aborder à la fin de notre extrait. C'est cette assurance des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ et du fait qu'on n'a plus rien à prouver, du coup, qui peut nous permettre de vivre des relations humaines transformées et marquées par une profonde humilité. Parce que les enjeux d'influence, de pouvoir, de séduction, de confrontation, qui agitent sans cesse le monde autour de nous, n'ont plus de valeur à nos yeux, ou ne devraient plus avoir de valeur à nos yeux, et en tout cas n'ont plus leur place dans l'Église. Alors je ne dis pas, j'espère ne pas être trop naïf, je ne dis pas qu'elles sont absentes en réalité, mais elles devraient l'être. Nous avons des ressources tellement meilleures que ces choses-là. Mais cette vie autre, elle ne doit pas rester théorique, bien sûr. Elle doit se vivre entre nous, concrètement. Un cadre supérieur doit pouvoir se réjouir de nettoyer les toilettes de l'Église, ou d'aider à la garderie, de changer des couches. Une personne au profil socio-professionnel plus modeste, entre guillemets, doit de son côté recevoir exactement la même considération. Parce que ces distinctions-là de ce monde n'ont plus leur place dans l'Église. Mais nous devons pouvoir nous aimer, nous accueillir, nous parler, nous inviter les uns les autres, même quand la vie ne nous aurait jamais unis, sans Jésus-Christ, sans l'Église. Voilà, je crois, la visée première de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, versets 3 et 4, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Sans valeur, il nous rappelle bien au passage. « Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Alors en lisant cela, on peut se dire que Paul, lui, est très naïf ou que ça paraît impossible. Considérer les autres comme supérieurs à soi. Alors, je pense que l'apôtre Paul sait parfaitement que les Philippiens sont encore loin du compte. C'est bien pour ça qu'il leur en parle. Si leur humilité était au top, ce n'est pas la peine de passer son temps en prison à écrire ce paragraphe. Donc c'est bien pour ça qu'il les exhorte. Mais on note que ce n'est pas en les culpabilisant ou en leur disant qu'ils ne valent pas grand-chose, que ce n'est pas de cette manière-là qu'il les appelle à l'humilité. Mais au contraire, il veut qu'ils comprennent combien ils sont aimés et bénis en Jésus-Christ, afin de pouvoir abandonner, renoncer à toute prétention humaine et pouvoir être pleinement disponible pour Dieu et pour les autres. Considérer l'autre supérieur à soi, ça paraît presque insensé tant ça va à l'encontre de nos réflexes. Mais je suis convaincu au plus profond, au plus profond de mon être, que je n'ai plus jamais à prouver ma valeur, parce que je suis aimé depuis toute éternité par le Créateur de l'univers et qu'il m'a promis de m'aimer pour toujours et que je suis en communion avec lui. Je n'ai plus besoin de donner moi-même du sens à mon existence parce que j'ai été comme saisi, capturé par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je suis aimé d'un amour éternel. Et Dieu a tout donné, a donné ce qu'il avait de plus cher par amour pour moi. Comment ne pas alors trouver dans cet amour, dans l'amour de Dieu et du prochain, le cœur même de ma vie nouvelle? Et si c'est le cas, je vais pouvoir poser sur l'autre un regard nouveau. Peut-être choisir de me concentrer plus sur ses qualités que sur ses défauts, dans l'espoir que les autres feront de même avec moi. Être généreux envers l'autre parce que je sais combien Dieu est généreux envers moi. Avoir profondément à cœur l'intérêt de l'autre. Vraiment avoir ce profond désir de voir l'autre prospérer. Parce qu'en fait, je ne m'inquiète plus pour mon intérêt. Et si toute une église locale, toute une famille spirituelle est habitée par cette confiance dans l'Évangile qui transforme les relations humaines, eh bien, je crois que ça aura des effets par ricochet sur ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, avec la famille, avec les voisins, avec les collègues. Plus nous vivrons ensemble cet amour généreux et confiant, plus nous aurons un impact sur nos contemporains, et plus les gens sauront que nous sommes ses disciples. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Ça dépasse l'entendement et nous avons peine à y croire. Et tellement peine à y croire que souvent nous nous laissons distraire ou fasciner par d'autres espérances qui sont sans comparaison et qui nous éloignent de l'essentiel. Merci pour ce texte de l'apôtre Paul qui nous rappelle que tu nous appelles à vivre des vies transformées. Tu nous appelles à vivre cela dans nos relations, à ne plus nous prévaloir de quoi que ce soit, sinon que nous sommes aimés et réconciliés avec toi. Tu nous invites à tenir ferme dans la foi ensemble et à marcher d'un même pas. Seigneur, donne-nous dans cette église ici, à la rue de Sèvres, d'avoir ce même souci que celui de l'apôtre Paul et à avoir ce désir de tenir ferme, de marcher d'un même pas. D'avoir ce désir tout simplement de te servir dans l'humilité, dans la consécration, dans la persévérance. Au nom de Jésus, Amen.